C'est ni Dieu ni maître, et donc chacun a tenté de trouver des bouquins.
Comment
en rapport...
ça a tenté, mais
bah, parce que
pas.
On verra, les auditeurs jugeront, mais chacun a tenté de trouver des bouquins en rapport avec le sujet. Et Mélanie,
oui, c'est moi.
On va commencer par toi. Comme c'est la période du bac.
Ah non, c'est pas pour faire...
C'est la période du bac,
non, c'est le week-end.
C'est les révisions, et donc t'as choisi Victor Hugo.
Victor Hugo. Victor Hugo,
le
ouais.
Le truc chiant pour tous
non,
les
Non, c'est pas chiant, Victor Hugo, c'est hyper punk. On le dit pas assez.
Alors explique-nous comment c'est punk.
Eh ben c'est... Alors, bon déjà, c'est un peu comme Yannick Noah, tu vois, ça reste quand même l'auteur français préféré des Français encore aujourd'hui, donc il est pas non plus complètement has-been. Et c'est un auteur d'une puissance incroyable. Comment
il écrivait pieds nus.
Il écrivait pieds nus.
Oui, parce qu'il y a Yannick Noah.
D'accord, ok. Ouais. Merci Vincent de cette intervention. Et non, ça reste un auteur extrêmement moderne, extrêmement accessible, et puis d'une puissance et d'un courage quand même à toute épreuve.
Et donc là, en plus de Victor Hugo, tu as choisi la poésie de Victor
ouais,
Hugo.
Non, je suis comme ça. Ah, donc là, un recueil en particulier, il s'appelle Les Châtiments. Donc on reviendra sur le titre après, qu'il a écrit effectivement en 1853, en opposition au régime de Napoléon III. Alors Napoléon III, on en a beaucoup parlé ces derniers temps, parce qu'on a souvent comparé Sarkozy à Napoléon III.
Ce qui était méchant.
Oui, mais pas faux finalement, pas complètement faux. Donc là aussi, on peut voir que c'est moderne finalement. Et donc Napoléon III, que Victor Hugo appelait Napoléon le Petit, parce qu'il le méprisait d'une force pas possible. Alors il a fait un autre jeu de mots qui est quand même moins convaincant, il l'appelait Napoléon. Bon, il a fait mieux, hein, Victor Hugo, mais... Et effectivement, il a écrit ce recueil pour vraiment s'opposer très fermement au coup d'État que Napoléon a fait, parce que Napoléon était donc président de la France, et la Constitution, en fait, normalement, l'empêchait de se représenter aux élections. Donc, bah, qu'est-ce qu'il a fait? Un coup d'État, comme ça, au moins, voilà. Il a repris le pouvoir par la force. Et en réaction à ça, en fait, il y a eu une grande insurrection populaire un mois après, et qui a été réprimée de façon extrêmement sanglante. Victor Hugo a assisté à ces insurrections. Il était député à l'époque aussi, Victor Hugo. Et du coup, après le coup d'État, bah, il ne l'était plus. Et en réaction à ça, il a décidé d'écrire ce recueil satirique qui est extrêmement violent à l'encontre de Napoléon. Et en conséquence, il a été obligé de s'exiler. Il a vécu en fait 20 ans hors de France suite à ce recueil, donc d'abord en Belgique et ensuite à Jersey et Guernesey.
Donc à l'époque, les intellectuels qui se rebellaient le faisaient au risque de leur vie.
Ah oui, il y avait des conséquences effectivement qui pouvaient être
plutôt importantes. C'est pas d'aller chez Ruquier et faire le malin là.
C'est ça, c'était pas le soir à minuit genre ouais, le gouvernement c'est de la merde. Ouais. Là, il écrivait un recueil et du coup bah il a été obligé de partir 20 ans avec sa famille. Pendant 20 ans, il a plus il a plus pu remettre les pieds en France. Donc voilà, il y a eu des conséquences quand même très importantes.
Et est-ce que les gens lisaient quand même ce qu'écrivait Victor Hugo?
Alors, c'était aussi difficile parce que du coup, au niveau éditorial, bah, forcément, en France, c'était un petit peu dur de publier son recueil. Donc il a été d'abord publié en Belgique. Mais c'est vrai que c'était un auteur déjà à l'époque qui était très, très apprécié par le peuple. Donc les bouquins circulaient un petit peu sous le manteau, comme on dit. Donc il était quand même lu. Mais c'est vrai que sur le plan éditorial, il a été publié en France 20 ans après aussi pour ce recueil-là en tout cas. Et du coup, bah, c'est vrai que c'est un recueil extrêmement violent et qui remet en cause vraiment toutes les composantes de la société de l'époque. Alors pour vous donner une idée, hein, le recueil est divisé en sept chapitres. Alors je vais pas vous donner tous les titres.
On n'a pas
mais,
le temps.
Ouais, voilà. Mais chacun reprend de façon ironique en fait le programme de Napoléon III. Donc la société est sauvée, l'ordre est rétabli, la famille est restaurée. Donc voilà, il décompose comme ça et à chaque fois il écrit des poèmes. Alors mais vraiment, il faut aller lire les poèmes de Victor Hugo parce que c'est
des poèmes, tu peux nous en lire, les poèmes trash quand même.
Alors le plus beau, moi, dans le recueil, c'est Souvenir de la nuit du 4, qui relate en fait l'assassinat d'un enfant par les troupes de Napoléon. Alors un enfant qui marchait dans la rue et qui s'est pris des balles de soldats. Et alors franchement, ce poème fait pleurer. Donc non, je n'ai pas le texte, mais ça commence avec l'enfant avait pris deux balles dans la tête et après il décrit la scène avec la grand-mère de l'enfant qui essaie de le ramener à la vie. Évidemment, c'est pas possible parce qu'il est mort. Et à la fin du poème, il y a une diatribe, mais d'une violence comme... Moi, je trouve, on lit plus finalement, même les auteurs modernes qui se disent opposés au régime, etc. Enfin, je trouve que c'est d'une force, et il s'en prend directement à Napoléon III en lui disant qu'en gros, voilà, c'est un assassin.
Haillon humain, hibou déplumé, bête morte. Ouais. C'est comme ça qu'il parle à Napoléon.
Ouais, il avait pas peur.
Trop fort, Hugo.
Ouais, non, mais vraiment, et franchement, c'est très accessible. Et alors, bon, tu parlais du bac français au début, enfin, pour faire quand même régulièrement des poèmes de Hugo avec les élèves, c'est incroyable l'effet que ça a encore sur les jeunes générations. Et souvent, à la fin, ils disent « Oh là là, ça fait des frissons et tout ». Enfin, vraiment, il y a une puissance d'écriture.
Pour briller à l'oral.
Ouais, c'est ça. Et puis après, ils me donnent un petit chèque. Non, mais vraiment, c'est incroyablement moderne et incroyable. Et du coup, hein, voilà, l'auteur... Alors, ni Dieu, ça se discute, parce que par rapport à Dieu, il avait une position assez ambiguë. Par contre, ni maître, voilà, il n'avait pas peur d'y aller et de s'opposer clairement au pouvoir en place.
Effectivement, c'est en téléchargement libre ou pas?
Ouais, moi sur ma Kindle, j'ai téléchargé gratuitement, donc en plus, voilà, vraiment, ce serait dommage de s'en priver.
Bon, comme on a ni Dieu ni maître, on va faire sauter la première pause musicale, parce que déjà, t'as bouffé une partie du temps. Et on va tout de suite passer à Odile, mon ami Jésus, de Lars Husum,
oui,
je sais pas comment on dit, c'est un Danois.
C'est un Danois. Alors, Lars Husum, c'est son premier roman. Parce que moi, j'aime bien travailler avec les premiers romans, parce qu'on arrive vierge de toute critique précédente.
Puis alors, pour Jésus, c'est mieux. Ouais, c'est
voilà. Et donc, Lars Husum, c'est son premier roman, mais il avait déjà écrit, puisqu'il travaillait avec Lars von Trier. Donc déjà, il arrive avec un bagage impressionnant. Et il a fait ce roman en 2005, au moment où il y a eu l'affaire des caricatures de Mahomet avec le journal danois. Et donc, il s'est dit, il faut que je travaille sur ce concept de religion. Et souvent, les gens qui sont à fond dans la foi disent, oui, mais j'ai eu un problème et un jour, tout a changé parce que j'ai rencontré Jésus. Et donc, voilà, c'est l'idée directrice de ce livre. Et donc c'est l'histoire d'un petit garçon qui à 13 ans perd ses deux parents dans un accident. Et donc il trouve ça d'une violence inouïe. Et donc il va se rebeller. Il va se rebeller comment ? Avec énormément de violence. Il va devenir une espèce de délinquant, traîné avec aussi les petites frappes. Cette violence, il va se l'infliger à lui-même, déjà avec de l'automutilation, et puis à son entourage. Donc il va être horrible avec sa sœur aînée qui va le couver et puis l'éduquer puisque ses deux parents sont morts. Il va tellement être horrible, pousse sa sœur au suicide. Ensuite, il a une petite copine, il est tellement violent que ben il l'amène à l'hôpital parce qu'il l'a tapé à mort, elle est dans le coma. Donc vraiment, c'est un sociopathe incroyable, c'est un petit peu le Patrick Bateman dans American Psycho de Bret Easton Ellis, mais version danoise. Tu vois, version danoise. Et donc, un être ignoble, violent, jusqu'au jour où
il rencontre
Jésus. Mais alors, bon, il ne le rencontre pas n'importe comment. C'est-à-dire qu'il est réveillé en pleine nuit parce qu'il y a quelqu'un qui cambriole son salon. Du moins, il croit que quelqu'un cambriole son salon. Donc, il arrive avec un énorme cendrier qui lui renvoie en travers de la tronche. Et là, le mec se retourne et dit, mais attends. Attends mon pote, je suis Jésus, je suis là pour t'aider, je vais te mener sur la voie de la rédemption. Et donc ce roman, c'est l'odyssée de cette transformation de Nicolas, donc un être abject qui va devenir meilleur.
C'est pour se foutre de la gueule de Jésus ou c'est une apologie
On ne sait pas. Mm-hmm. C'est ça qui était assez amusant parce que donc il rencontre Jésus plusieurs fois. Alors Jésus en plus c'est un biker hein, qui arrive en Harley Davidson et en sandalette. Parce qu'il y a quand même le côté Jésus, c'est sandalette. C'est le seul moment. Et donc, ce mec lui dit qu'il est Jésus et lui donne des conseils pour aller mieux. Donc, ça va commencer par retrouver tous les gens qu'il a blessés, mais blessés et plus que meurtris, puisqu'il les envoie à l'hôpital ou au cimetière. Et il va aller essayer de les retrouver. Bon, pas les morts, mais ceux qui sont restés vivants, en leur disant, bon, maintenant, je suis là et je vais faire le bien. Donc forcément, leur réaction au début, ils sont un petit peu craintifs. Puis finalement, à la fin, bah, il devient une espèce de gourou qui va faire le bien autour de lui. Et tout ça, c'est très agréable à lire parce que, je n'ai pas dit l'essentiel, c'est que les parents de ce mec qui était mort, donc la mère, est une chanteuse danoise internationalement connue. Tout le monde le connaît comme étant le fils de cette chanteuse. Donc il y a tout au long de ce journal où il raconte son histoire à la première personne, il y a des extraits de textes de presse sur sa maman. Alors sa maman, elle était chanteuse de variétoche, mais donc on a des explications de textes sur les chansons d'amour de sa mère. Alors au début, il trouvait ça gnangnang, puis à la fin, il trouve que franchement... chanter l'amour, c'est formidable. Donc voilà, c'est très amusant et je le conseille.
Ça donne envie de rencontrer Jésus ou pas ?
Ou de se poser des questions, parce que finalement, on ne sait pas si c'est vraiment Jésus ou si c'est un biker qui se fait passer pour Jésus ou si il a des apparitions que seul lui voit et qu'il invente. On ne sait pas.
Alors, c'est publié chez
10-18.
10-18, donc...
Mon ami Jésus de Lars Husum.
Merci, Odile. Patricia, après avoir parlé de Jésus, on va parler des saints.
Oui, moi je vais parler d'un roman espagnol, Eduardo Mendoza, qui n'est pas forcément connu pour ce roman-là, mais qui est quand même bien, qui s'appelle donc Trois vies de saints, alors, qui est composé de trois récits, un assez long, qui s'appelle, qui s'intitule La baleine, et puis les deux autres, La fin de Dubslav, c'est le fameux mot que j'ai du mal à prononcer, et l'autre, Le malentendu. Alors, les protagonistes de ces trois récits, hein, ce qui justifie que j'en parle ici maintenant. Dans le premier, La baleine, bah, c'est pas La baleine, contrairement à ce qu'on pourrait attendre. Ici, le personnage principal, c'est un évêque qui vient d'Amérique centrale, qui est alcoolique. On est sous le franquisme, on est à Barcelone, et donc il est accueilli par une famille de bourgeois barcelonais à l'occasion d'un congrès eucharistique qui est censé répandre dans le monde chrétien un message d'amour et de charité. Et on voit bien, évidemment, le narrateur de ce récit, c'est un enfant. Et on voit bien, à travers le regard de ce gamin, que Mendoza porte un regard extrêmement caustique sur l'Église. Cet évêque en question, c'est un mécréant. Il arrive en Espagne, il a dû fuir un régime qui l'a évincé, pour des raisons qui sont pas clairement exposées, mais on devine qu'il a un passé assez obscur. En tout cas, ce qu'on sait à la fin du récit, c'est qu'il est devenu évêque. Au départ, il était curé parce qu'il fallait bien faire quelque chose. Il a jamais cru en Dieu, mais il fallait bien faire quelque chose. Il est devenu curé, et puis il a compris qu'on pouvait devenir aussi évêque si on se mettait au service des caciques. Et donc, un jour, il a tué pour rendre service à un cacique. C'est comme ça qu'il est devenu évêque. Bon, il y a un passage qui est assez croustillant que j'aime bien, notamment dans ce premier récit où il est hébergé justement chez cette famille de Catalans et notamment par la tante qui s'appelle Conchita. Bon, c'est très original.
Que tu vas nous lire ?
Ouais, j'avais l'intention, ouais, bien. Si, super, merci. Non, j'avais peur que tu me censures à cause du temps. L'évêque se retrouve tout seul dans cette vaste demeure avec la tante, et la tante veut absolument le voir, et c'est pas ce qu'on croit, c'est qu'elle veut se confesser absolument. Elle a pas commis de péché, parce qu'elle sait même pas ce que c'est que de péché, mais elle veut absolument le voir, et en fait, son gros souci, c'est qu'elle a plein de bijoux, elle a une fortune enfermée dans un coffre, et elle voudrait, elle a mauvaise conscience, parce qu'en tant que bonne chrétienne, elle se dit, ce serait quand même mieux de le partager, de le donner aux pauvres. Et donc, d'où cet échange que j'aime bien. Donc, je me demande souvent si je devrais pas vendre ces bijoux et affecter le produit de la vente à des œuvres de bienfaisance. C'est ce qu'elle demande donc à l'évêque. Le donner aux pauvres, demande à l'évêque, comme si l'idée de faire quelque chose pour les plus défavorisés ne lui était jamais passée par la tête. Bah pourquoi ? Pour soulager leur peine, pour qu'ils achètent ce dont ils ont tant besoin, pour être en résonance avec les paroles de l'Évangile. Faites-vous des amis avec les richesses d'iniquité, afin que lorsque vous viendrez à manquer, ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Oh bon sang, l'Évangile dit ça ? Oh, je donnais pour acquis que vous connaissiez le passage, monseigneur. C'est la parabole de l'intendant infidèle. Ça alors, j'ai jamais entendu parler de ça, ma fille. Mais je crois que vous devriez fermer ce coffre. Faudrait pas qu'on nous surprenne et qu'on croie, Dieu sait quoi. Donc voilà, bon, c'est un des passages. Mendoza, ça peut-être pas.
Tu fais bien la bigote. Hein. Ouais, franchement, on sent que tu vis le truc.
Il y a du vécu. Hein. Non, donc et à la fin du récit, ouais, aussi dit de toute façon, l'Église, c'est un ramassis de canailles. Et bon, le parallèle. Pourquoi la baleine ? Pourquoi s'intitule la baleine ? C'est qu'à un moment donné, à la fin du récit, il y a un cadavre de baleine qui est exposé à Barcelone. On est dans l'après-guerre civile, hein. Donc c'est quand même une grosse attraction. L'évêque hein, qui est devenu, enfin qui arrive à vivoter, on est des années après son arrivée à Barcelone, il est resté à Barcelone, il n'a jamais pu retourner dans son pays, et il a trouvé des petits jobs pour gagner quand même un peu sa vie, et il dépense son maigre salaire tous les jours pour arriver à se payer l'entrée pour aller voir cette baleine, parce que pour lui il est comme cette grosse baleine. Il a échoué en Espagne et voilà, c'est vraiment l'exemple typique de héros en quête de rédemption, d'anti-héros pardon, en quête de rédemption, comme la plupart des personnages de Mendoza. Le deuxième récit, donc, c'est la fin de Dubslav. Je vais faire beaucoup plus court. Alors là, c'est l'histoire d'un type, ça n'a rien à voir. En fait, c'est des récits que Mendoza a écrits tout au long de sa carrière. Hein, donc, ça n'a pas été écrit lors d'une même période. Donc, c'est l'histoire d'un homme qui vit parmi les indigènes d'un village perdu en plein désert. Et un jour, il reçoit par un télégramme l'avis de décès de sa mère. Et il apprend également qu'on doit remettre à Bruxelles un prix à sa mère, qui était une éminente scientifique dans le secteur de l'ophtalmologie. Et donc, voilà, il va se rendre à Bruxelles à la place en hommage à sa mère. Et bon, voilà, une phrase qui résume aussi le personnage. « Je suis un homme absurde, j'ai été conçu de façon absurde et toute ma vie a été consacrée à développer et à perfectionner cette absurdité. » Donc là, c'est pareil, on est encore face à un anti-héros. Et autant, c'est surtout l'Église qui est raillée dans le premier récit, autant dans la deuxième, c'est même les institutions les plus éminentes, le prestige scientifique est lui aussi critiqué largement dans le deuxième. Et le troisième, c'est l'histoire qui s'appelle le malentendu. C'est l'histoire d'un prisonnier qui est passionné de littérature. Et puis un jour, il y a une prof qui vient donner des cours d'initiation à la littérature dans cette prison, et lui se découvre une véritable passion, à tel point qu'un jour il finit par prendre la plume et il commence à écrire, et il devient un auteur de best-seller. Donc merveilleux, me direz-vous. Mais là encore, Mendoza, comme sur l'Église, comme sur tout le reste, comme sur l'être humain, il porte aussi un regard assez caustique, puisque le personnage lui-même dit, quand il analyse son succès littéraire, « Je suis toujours le même couillon qu'avant, même s'il est devenu un auteur à succès. Et mon succès est dû à un malentendu », d'où le titre de ce troisième récit. Les lecteurs croient lire des histoires mouvementées, chargées de signification, et ils ne lisent que des artifices. Donc là, on peut même dire que Mendoza fait presque dans l'autodérision, puisque là, c'est pareil. Je trouve qu'il fouette un petit peu le prestige de l'institution littéraire dans tout ce qu'elle peut avoir de plus prétentieux.
Un petit peu comme nous à des poches, quoi.
Ah ouais, mais nous, c'est quand même au-dessus. Non, nous, on est bien au-delà de tout ça. Non, mais justement. Mais ça, peut-être que Mendoza, un jour, écrira sur nous. Je serais pas étonnée. J'ai bien l'intention de le rencontrer pour ça, d'ailleurs. Donc, le dénominateur commun, pour finir, c'est vraiment, on en présente de trois anti-héros en quête de rédemption, et que dans les trois récits, il y a un non-respect de presque tout. Donc, ni Dieu, ni maître, je trouvais que ça collait super bien.
Donc, trois vies de saint d'Eduardo Mendoza,
De saint, S-A-I-N-T-S.
Il faut lire d'autres bouquins de Mendoza.
Ah oui, non, oui, il y a le mystère de la crypte ensorcelée qui est excellente aussi, où là, c'est un détective qui sort d'un asile de fous. C'est pareil, un personnage complètement déjanté. Il y a aussi Sans nouvelles de Gourps aussi, qui est l'histoire d'un extraterrestre qui apparaît à Barcelone sous les traits de Madonna. Enfin bon, non, il a... Faut lire Mendoza en règle générale. Quoi.
Merci Patricia.
De rien, c'est un plaisir.
Pour nous aussi. On va faire une première pause musicale pour boire des coups parce qu'il fait chaud sur au quart de tour. Il fait beau. On va retrouver Cathy, Jimmy, Laurent, Vincent juste après avoir écouté Boogers.
Bah oui, forcément, bah oui. Boogers sur au quart, The Devil.
Boogers qui était là avant-hier.
Oui, c'était la surprise.
If you look upon my face, you are watching now the devil. If you look upon my face, you are watching now the devil. Watching
Retour en direct de la Gloriette. Je me suis pas trompé, t'as vu, j'apprends. En direct de la Gloriette pour le Festival Ocarina Tour et surtout pour la spéciale des poches sous les yeux consacrée au thème Ni Dieu ni Maître. Et Cathy est de retour. Mais Cathy, mais c'est dingue. Et c'est incroyable. La dernière fois que tu es venue ici. Non, je vais rien dire. Non, je ne dis rien.
Alors, merci. Cathy. Merci de m'accueillir. Merci de me reprendre dans votre équipe.
Alors, tu as choisi un bouquin édité chez Camion Blanc. Et je crois qu'à chaque fois qu'on fait un dépêche sous les yeux à Ocar, on parle de cette édition, Camion Blanc.
Oh oui, c'est fort probable, hein, puisque c'est un éditeur spécialisé dans tout ce qui va être musique. Voilà. Donc, alors, le bouquin s'intitule Gun Club 24 histoires pour Jeffrey Lee Pierce. Je sais pas si ça vous dit quelque chose.
Jeffrey Lee Pierce. Ouais, un peu, mais c'est parce que j'ai préparé, hein, parce que sinon.
Moi, j'ai découvert tout récemment. Hein, je connaissais pas. Donc, je connaissais pas.
C'est-à-dire que tu connaissais pas Gun Club?
Non. Non, wow. Non, j'ai découvert tout récemment.
C'est là où je suis.
Bref. Bah, c'est pas très très connu non plus. Hein. Quand il est mort, par exemple, le journal Libération titrait Mort d'un loser. Alors, on se rend compte que le titre est un peu paradoxal parce que il a quand même entraîné une prestigieuse descendance. Alors là où je suis contente de prendre la parole maintenant, c'est que du coup, on parle un peu de musique. Avant, c'était pas du tout le cas.
Tu as raison de critiquer. Voilà. Tes camarades, c'est bien. C'est bien.
Donc, l'année prochaine, vous
n'en parlez pas. On en parle plus non plus, en fait. C'est le seul moment.
Voilà. Donc, alors, prestigieuse descendance parmi lesquelles Nick Cave, chez nous en France, Noir Désir, voilà. Alors, donc, le principe du truc, c'est qu'en fait, c'est un recueil de nouvelles. Je vous le montre parce qu'il est très, très beau.
Et à la radio, ça marche vachement. Ouais, c'est super. C'est vrai qu'il est très beau.
Je vous montre à vous. Ouais. Et donc, le principe, alors, c'est pas la première. Il y a plusieurs recueils de nouvelles édités par Camion Blanc sous la direction de Jean-Noël Levavasseur. En fait, le truc, c'est de rendre hommage à un groupe ou à une personnalité du rock'n'roll à partir d'un titre de chanson des auteurs plutôt prestigieux dont Olivier Martinelli. Je me tourne vers Odile parce que c'est un peu enfin moi je l'aime beaucoup, je crois que toi aussi.
Oui, on en avait déjà parlé pour la Bourse aux 10 il y a 2 ans, vraiment un auteur
qu'on aime.
Livre.
Voilà. C'était bref. Et donc chacun des auteurs sont invités à écrire un court récit, donc une nouvelle prenant comme inspiration le Gun Club. Alors donc là où on est vraiment dans le thème ni Dieu ni maître, c'est que Jeffrey Lee Pierce, c'est quelqu'un qui ne s'est jamais laissé influencer par quelques dogmes musicaux que ce soit, même si il a une grande révélation sur le reggae, le blues, ce genre de choses, mais il n'est pas du tout resté fixé là-dessus. Il a, je vais dire un mot peut-être un peu fort, mais transcendé tout ce qu'il recevait musicalement pour faire sa propre musique, son propre son. Alors ça pouvait être très déstabilisant quand on pouvait aller le voir en concert. Bah d'ailleurs, je suis désolée, je reparle encore d'Olivier Martinelli parce que sa nouvelle est assez emblématique du truc. Ça s'appelle Hurts. Donc il assiste à un concert, son premier concert des Gun Club. Et alors clairement, pendant je sais pas un quart d'heure, 20 minutes, il reste complètement dubitatif, à pas comprendre en fait hein, ce qui se passe parce que Jeffrey Lee Pierce il crie, comprend pas non plus la admiration qu'il suscite autour de lui, notamment sa petite amie. Bon, après, il y a peut-être un petit peu de jalousie de sa part, je sais pas. Enfin, bref, c'est quand même quelque chose qui a conditionné sa vie future d'écrivain, en fait. Et donc, chacun des auteurs là de ce recueil est très investi dans tout ce que lui a donné Jeffrey Lee Pierce. Je sais pas ce que je peux dire de plus parce que comme on a 3 minutes à 2 maintenant. Oh merci. Alors si quand même je parlais des illustrations rapidement, excusez-moi. Donc il y a des photos, il y a des illustrations très très belles aussi d'Olivier Brut et Jean-Christophe Chosy. Pour la petite anecdote, je vais le placer hein. Donc nous avons un ami tourangeau qui écrit dans ce livre et qui participe à différents projet autour de Jeffrey Lee Pierce.
Comment c'est Ami Tourangeau parce que...
Alors, sur Merle, Léonce Bonne.
Noir Désir a fait une chanson sur...
Oui, tout à fait. Song for GLP sur l'un de ses albums le plus connu. Le lendemain, je crois, le jour où il a appris la mort de Jeffrey Lee Pierce.
Alors, on aurait pu la passer, mais non. On la passera pas. On la passera pas parce que, merci Cathy, on va maintenant, avec Jimmy, s'intéresser au poulpe.
Et le poulpe, vraiment un personnage qui est libertaire au possible.
Ouais.
C'est un privé qui fonctionne pour lui en fait. Il se met ses propres missions en fonction des faits divers qu'il va trouver dans le journal. il part, il se paye sur la bête et il cherche pas la notoriété. Voilà quoi. Et bon, c'est un petit peu toujours les mêmes cibles. Hein, c'est
alors le foot bête expliqué, le poulpe a été inventé par Pouille.
Alors oui, le poulpe en fait, ça a été mis en place par l'équipe des éditions Baleine, avec Jean-Bernard Pouille,
ancien président du prix Rock Attitude il y a très très longtemps sur béton.
Voilà, ouais. Et donc c'était inauguré en 95. D'ailleurs, c'est Jean-Bernard Pouille qui avait écrit le premier poulpe, hein, la petite écuyère à cafeter. Alors c'est ça qui est bien avec le poulpe aussi, c'est que c'est un régal. Il y a ne serait-ce que dans le titre, c'est toujours marrant de.
Il y a toujours des jeux de mots pas possibles. Ouais.
Il y a des trucs incroyables.
Les bêchers étaient fermés de l'intérieur.
Il y a des trucs complètement délire quoi.
Nazi dans le métro.
Notre père qui est odieux. Sept poules. Les sept poules de Christelle. À vos max, prêt, partez. 20 000 lieues sur les nerfs, enfin il y en a plein comme ça. Alors il y en a qui fonctionnent aussi, il faut les lire. Hein. Des fois c'est les jeux de mots, enfin voilà quoi. Donc c'est toujours un régal, de, ne serait-ce que par le titre.
Mais l'idée de Jean-Bernard Pouille, c'est donc de fixer des règles pour que des auteurs différents racontent cette histoire d'un personnage qui s'appelle le
Poulpe. Voilà, ils ont voulu relancer le polar français un petit peu en des petits fascicules qui se lisaient facilement, un petit peu dans l'idée du roman de gare.
Les avec pulp, aussi des couvertures magnifiques, hein, voilà. On les repère tout de suite.
Miles Hyman, oui. Qui a aussi fait celle du Dahlia Noir, il me semble, chez Rivage.
Et puis sûr, qui a aussi fait un album avec Philippe Jean, si je ne me trompe pas.
Peut-être.
Un roman graphique.
Si tu dis, c'est vrai. Voilà. Mais c'est moi qui parle là, s'il te plaît.
D'accord. Il y a déjà une minute et demie alors.
Voilà.
Et donc Pouille.
On est tous des amis, on s'entend super bien.
Voilà. Ouais, c'est cool.
Pouille écrit quand il lance la collection, il écrit une bible. Donc ça a quand même un rapport avec les diodinètres. Il écrit une bible qui est la bible que chacun va devoir suivre.
Exactement, exactement. On revient à mon propos, hein. Voilà. Et donc le poulpe, son nom vient aussi des pulp américains, qui étaient des petits romans de gare, etc. Quoi. Et il y a un cahier des charges avec un certain nombre de choses à respecter. Le poulpe, c'est un garçon qui est un peu ténébreux, qui a un point de chute dans un bar, un petit troquet qui s'appelle le pied de porc de la Saint-Scolas. Dedans, il y a toute une faune une faune d'habitués. Il y a Vlad, le cuistot roumain. Il y a Gérard, le patron, Léon, le chien, et puis aussi un tas de personnages annexes qui ont toujours leur rôle, comme Pedro. Pedro qui a un lointain rapport avec la guerre d'Espagne. Il est peu probable qu'il l'ait fait, parce que c'est vrai dire qu'il serait super vieux, mais il y a un rapport comme ça, c'est un républicain dans l'âme, etc. Et c'est lui qui fournit au poulpe ses faux papiers, parce qu'il a une imprimerie clandestine dans le fond du jardin, etc. Il bricole, enfin c'est un artiste quoi. Et il lui fournit aussi un petit peu dans quelques guns dont il a besoin pour ses enquêtes. Il y a Cheryl, incontournable. Cheryl, c'est donc la copine du poulpe. Elle tient un salon de coiffure, mais elle est extrêmement piquante. Enfin bon, donc il y a plein de choses comme ça, des choses à respecter. Le poulpe, il boit de la bière, hein. Pas question de faire boire du pinard au poulpe, hein. Le poulpe, il boit de la bière. Et donc, au cours des différents romans que l'on peut parcourir, donc c'est toute une carte de bière qu'on traverse.
Il est obligé, dans les règles qu'a fixé Pouille, il est obligé de boire une bière au moins pendant le bouquin. Mmh. Il est obligé de lire un livre de philosophie.
Alors,
aussi
oui, il y a toujours un bouquin qui est en fil conducteur. Alors, ça peut être philo, littéraire, poésie, peu importe. Là, par exemple, j'en ai préparé deux pour le direct. Il y a donc le bouquin que j'avais lu, c'était Parkinson le glas. Hein, et donc, il lit quoi?
Je ne sais pas, mais c'est
un bouquin d'Hemingway.
Bravo,
voilà, exactement.
Bravo.
Et donc, en fait, il a un petit peu du mal parce que son enquête le coupe toujours. Donc, il relit toujours le même phrase, le même premier paragraphe. Il n'arrive pas à reprendre son bouquin à chaque fois. Par exemple, dans L'amour tarde à Dijon, voilà, encore un bon titre. Il lit Xavier Forneret. Alors, moi, je connaissais pas, hein, Xavier Forneret. C'était un mec qui, un illustre inconnu de Dijon, un peu spécial. En fait, il l'éditait à compte d'auteur. Il a dilapidé toute la fortune du vignoble parental en éditant ses bouquins, et il les vendait à qui il avait envie. Donc il choisissait forcément il est fini ruiné quoi. C'est un mec que Breton estimait beaucoup, enfin bon bref, voilà. Donc voilà pour le poulpe. Le poulpe aussi.
Combien de bouquins dans la collection?
Il y a à peu près 300 bouquins.
Vous voulez donner les titres?
Non, il y en a beaucoup là. J'ai une liste, mais
il y a toute une série
de
titres avec Cheryl aussi. Moi j'aimais bien toute la version où Cheryl intervient un petit peu plus et plus présente.
Et ça continue.
Ça continue.
Truc qui existe
et
encore.
Et ça continue. Hein. Donc par exemple, Parkinson Le Glas, là, c'est signé Gabriel Le Couvreur. Gabriel Le Couvreur, c'est le nom d'état civil du poulpe, en fait. Et c'est un pseudo d'un mec qu'on avait déjà écrit, Jean-Jacques Rebou, qui avait une petite maison d'édition, qui a retravaillé après avec La Baleine, et qui ont fait beaucoup, beaucoup de choses ensemble, etc.
Et pour Mélanie, Martin Winkler a écrit.
Oui,
il a écrit.
Y a un truc avec saint dedans aussi.
Touche à mes deux saints.
Ouais, c'est ça.
Touche à mes deux saints, Martin Winkler. Le célèbre écrivain que connaît Mélanie. Donc les derniers bouquins du poulpe, c'est quoi? Tu les as ou...
Non,
tu les as pas. Mais
non.
Mais
je les ai pas. Non, puis on n'arrive pas à les avoir en service de presse. À chaque fois, je demande et j'arrive pas à voir.
Tu veux dire gratuitement? C'est ça que c'est comme pour les auditeurs, un service de presse, ça veut dire on reçoit les bouquins gratuitement, ce qui nous permet de les lire et de les chroniquer.
Exactement.
On va pas quand même acheter des bouquins, faut pas.
Ah bah non. Merde. On est ni Dieu ni maître ou pas. Ouais. Hein.
Merci de nous avoir donné envie de lire ou relire. Le poulpe, on va retrouver juste après une pause Laurent, Vincent, Johan aussi qui doit traîner quelque part et qui ne doit pas oublier de venir nous voir. On écoute Gogol premier, j'encule. Yo, c'est des poches sous les yeux sur au quart de tour en direct pour des chroniques de livres qui ont un rapport avec ni Dieu ni maître. Et Vincent, tu es allé chercher un bouquin.
Oui, alors moi, j'ai, comme tout le monde aujourd'hui, je n'ai ni Dieu ni maître, mais j'ai surtout une déesse et une maîtresse. Oh. Et comme ces consignes, c'est de lire des livres de poche, je vous parle aujourd'hui d'un livre de poche, d'ailleurs publié au Livre de Poche, Antoine Sénanque, Salut Marie, qu'on est bien dans le thème, hein, puisqu'il s'agit...
En tout cas pour le titre.
En tout cas, mais même à l'intérieur, il s'agit d'un gars qui s'appelle Pierre, le héros de ce bouquin, qui est veto, qui a la cinquantaine, qui est assez triste en fait. Il traîne son spleen depuis que sa femme est morte, brutalement. Et bon, voilà, il n'attend plus rien de la vie, sauf qu'un jour, un 1er avril, la Vierge lui apparaît. Alors bon, il y en a...
Alors c'était Jésus, maintenant c'est la Vierge.
C'est la Vierge, et la Vierge, c'est quand même vachement mieux. Elle est beaucoup plus jolie, hein, déjà. Et il y a plein de gens qui croient sans chercher de preuve de l'existence de Dieu. Et à ce pauvre type-là, on lui sert la Vierge sur un plateau et bah, il s'en fout. Il n'a pas envie de croire et il ne sait pas pourquoi cette Vierge lui apparaît. Et donc, c'est tout le début de l'intrigue, de confronter le scepticisme de ce gars, hein, qui n'attend plus rien de la vie, avec ses apparitions. Donc, il en parle à ses potes. Il est veto, spécialiste des chiens. Donc, il en parle à un autre pote qui est aussi veto. Il en parle à son autre pote qui tient un bar. Donc, tous les trois, ils vont se pochetrôner la gueule.
Il y a
toujours
quelqu'un qui tient un bar, hein, dans ces bouquins-là.
Qu'est-ce qu'on fait? On va voir un spécialiste. Spécialiste du cerveau d'abord, hein, parce que quand même, t'as eu une hallucination. Donc, c'est que t'es malade. Bon, il trouve rien. Bon. Alors, l'autre va voir un autre spécialiste. Spécialiste de quoi? De la religion. Va donc voir un prêtre. Et c'est là qu'il met le doigt dans un engrenage et que forcément, ça commence à savoir que Pierre, le vétérinaire, a vu la Vierge. Et donc, on lui met des petits papiers dans ses poches pour que il ait des intentions de prière pour ses petites vieilles qui n'attendent peut-être un miracle avant la mort. Bon, bref, lui n'en veut toujours pas. Pourtant, la Vierge lui réapparaît une autre fois alors qu'il est en train de geindre sur la tombe de sa femme. Petit à petit, quand même, autour de lui... les choses bougent. Lui, il est toujours dans sa mouise.
Ça doute.
Ça ne doute pas, lui. Non. Mais les gens qui, comme lui, cultivaient leur pessimisme, leur cynisme et leur je m'en foutisme par rapport à la vie, reprennent goût. Alors, ça peut être son assistante, parce que Rose, son assistante au cabinet du vétérinaire, elle aimera bien se le réchauffer, hein, son petit Pierre, là. Mais finalement, il la néglige alors qu'elle lui fait des avances à peine voilées. Bon, il finit peut-être par la voir et la considérer dans son champ de vision. Il y a une vieille bigote aussi qui dit vous n'allez pas euthanasier ces chiens, moi je vais m'en occuper, comme j'ai un passé d'herboriste, je vais essayer de les sauver. Et puis bon, comme il a quand même des gros problèmes psychologiques aussi, il va chez un psy régulièrement et il fréquente dans la salle d'attente une jeune fille qui est anorexique. Et grâce à leur conversation avant, après session, il arrive aussi à la sortir de son apathie. Et donc comme ça, tout autour de lui, les choses bougent alors que...
À croire qu'il suffit d'être investi d'un truc et puis on fait le lien autour de soi.
Investi sans le savoir.
Comment
ils
se regardent tous les deux, c'est magnifique.
Investi sans le savoir, sans le savoir. Alors, ce qui est très plaisant, les jaloux, taisez-vous. Ce qui est très plaisant dans ce bouquin d'Antoine Sénanque, c'est que à la fois c'est piquant, c'est drôle, il y a beaucoup d'humour, donc ça se lit vraiment avec plaisir. Deuxième point, c'est très court, 200 pages, donc n'hésitez pas à vous jeter dessus. Et puis, au-delà de ça, parce qu'il s'agit de religion, ça parle effectivement du rapport au divin, du rapport de l'homme à la religion et finalement de qu'est-ce que vivre et pourquoi on vit.
Ouais, parce que finalement, c'est un peu comme tout à l'heure pour Jésus, est-ce que c'est mieux d'avoir rencontré la Vierge ou pas?
Alors, finalement... À la fin, il accepte que la Vierge fasse des miracles, pas pour lui. Lui, effectivement, va mieux à la fin, mais je ne vais pas vous dévoiler les derniers rebondissements qui se passent dans la grotte de Lourdes, hein, parce que forcément, à la fin, à force de fréquenter des bigotes, il va faire le pèlerinage avec ses vieux potes de Beuverie jusqu'à Lourdes. Bon, donc, il y a plein de rebondissements super, super marrants. Mais oui, à la fin, je ne sais pas si on finit par... être convaincu de l'existence de ces apparitions, mais en tout cas il y a de l'autosuggestion et ce petit groupe qui faisait un peu du surplace finit par reprendre le train de la vie.
L'autosuggestion, c'est un peu ça la religion en fait. Non,
ah certes.
On va prendre un moment.
J'essaie d'élever le débat, excusez-moi. Mais
donc ce qui est alors dernier je dirais clin d'œil, Antoine Sénanque, c'est son nom.
C'est pas
de plume.
C'est son vrai nom. Ouais.
Donc il est neurologue, il a commencé à écrire sur le tard vers 45 ans. D'abord des bouquins qui avaient trait à sa spécialité.
Hyper jeune à 45 ans,
oui, sur le tard. Sur le tard de pouvoir écrire.
C'est-à-dire qu'il a.
Il avait un boulot quoi.
Voilà. Il avait un boulot. Et donc
il s'appelait comment pour de vrai?
Ah, je ne sais pas.
Moulongay, s'il te plaît.
Très bien, merci monsieur. Vous avez gagné un cierge gonflable. Et donc, ben, pourquoi il y a un petit clin d'œil, c'est que Sénanque, c'est aussi le nom d'une abbaye. Et donc, après avoir traité des livres sur la médecine, il a fini par nous produire ce petit opus qui a trait à la religion, alors que c'était en hommage à la religion qu'il avait choisi son nom de plume.
Donc, c'est son petit opus qui s'appelle « Salut Marie » de Antoine Sénanque.
Livre de poche. Je vous le conseille.
Merci. Ouais. J'allais dire ta princesse, mais ta princesse va nous parler après Jésus, ta déesse, oui. Va nous parler de Dieu maintenant. Dieu me déteste.
Oui, après Jésus, je vous propose Dieu me déteste. Alors qu'est-ce que c'est Dieu me déteste ? Là, on n'est plus du tout dans le miracle, hein. On est dans la vraie vie. Je vous amène dans un hôpital de New York à l'étage des soins palliatifs.
Génial. On va y aller.
On vous laisse.
On va te laisser.
Et alors, étrangement, il s'agit d'un livre hyper réjouissant et hyper drôle. Donc, c'est pour vous dire que Holly Simon, dont c'est le premier roman, est vraiment très forte. Encore un premier roman. Parce qu'arriver à nous faire rire sur le soin palliatif, faut vraiment être doué. Et donc, c'est l'histoire de Richard. Il a 18 ans et il sait qu'il n'aura jamais 19 ans puisqu'on lui donne un mois à vivre. Et donc, en quoi c'est ni Dieu ni maître? Déjà, au lieu de dire qu'il a un cancer, il dit qu'il est atteint du syndrome DMT, c'est-à-dire Dieu me déteste. Forcément. Non, DMD. Dieu me déteste.
J'étais en train de dire, il y a un truc.
Il me déteste vraiment.
Dieu me déteste.
Eh ben oui, parce que forcément, on a 18 ans, on sait qu'il reste un mois à vivre. Le big boss, hein, on l'a vraiment dans le collimateur. Et donc, tout le livre, ça va être une espèce de pied de nez à la grande faucheuse. Comment faire pour profiter des derniers instants? Donc, il y a une urgence de vivre et de vivre tout. En particulier, comme il a 18 ans, donc à son étage, il y a que des vieux qui vont mourir. Mais heureusement, il y a Sylvie. Et Sylvie, elle a 16 ans. Elle va mourir aussi dans un mois. Et donc, l'idée, c'est de gagner, de enfin vivre le premier amour, qui en même temps sera le dernier amour.
Oui, c'est clair, oui.
Et donc là, c'est formidable. Il y a plein de secondes.
Quand tu sais que ton premier amour, c'est le dernier, c'est formidable.
Bah là, oui, t'es sûr que c'est l'histoire de ta vie, du coup. Hein. Et donc, il y a plein de personnages secondaires qui ont une importance folle. Et donc, il y a les gens du service qui sont super sympas. Il a une grand-mère rock'n'roll qui va tout faire pour que la salle de soins palliatifs devienne un petit boudoir d'amour pour leur première nuit d'amour et leur dernière. Et puis, il a aussi un tonton déjanté qui le fait sortir en douce de l'hôpital. Pour aller s'amuser, parce que c'est la Toussaint. Et que la Toussaint, la fête des morts, faut pas rater
ça.
Oui, voilà. Donc, franchement, à lire, c'est réjouissant parce qu'il y a cette urgence et cette vitalité, étant donné qu'ils sont jeunes, de faire un dernier pied de nez. Et puis, en plus, ils peuvent tous se permettre parce que qu'est-ce qui peut leur arriver? Hein, on va pas leur donner une fessée, les punir de quoi que ce soit. Ils vont mourir dans 3 semaines, 1 mois.
Ils ont de la chance, en fait.
Mais ils ont de la chance parce que, et c'est pour ça que c'est vraiment très drôle parce que ils se disent, mais c'est génial, j'aurais jamais de diabète. J'aurai jamais un gros bide, je vais jamais perdre mes cheveux. Enfin voilà,
tu comment dis ça pour qui?
Non, je ne sais pas. Donc comment positiver tout quand il reste 3 semaines à vivre.
Et donc ça s'appelle
Dieu me déteste de Holly Simon chez 10-18.
Merci, c'était vraiment
c'était court hein, c'était bien.
Mélanie, donc l'art de la joie.
Tout à fait. Alors tu parlais de vitalité, Odile, ça fait une habile transition puisque bah comme l'indique le titre hein, l'art de la joie, tout est dit. En fait, je vais m'arrêter là. Je vous donne le titre et
merci.
Puis je m'en vais. Donc de Goliarda Sapienza. Alors, je parle sous contrôle de Violette. J'espère que je n'ai pas trop. Non, ça va, ça va. Donc, il est un livre, alors un livre culte en fait, qui a eu pourtant beaucoup de mal à être publié parce que Goliarda Sapienza a écrit ce livre déjà pendant 10 ans. Donc, ça a vraiment été un travail pour elle. De tous les jours, elle est devenue à moitié folle en l'écrivant. Elle a vendu tous ses meubles. Ouais, ça donne envie d'écrire. Enfin, vraiment, pour réussir à finir ce livre. Et en fait, elle n'a jamais connu la publication de son vivant. Parce qu'après, pendant 20 ans, elle s'est battue pour le faire sortir. Personne n'en voulait parce que, bah, justement, il était un petit peu en dehors des sentiers battus. Et c'est son mari qui, finalement, a réussi à le faire publier il y a très peu de temps. Et 2 ans après la mort, en fait, de Sapienza. Alors, ce livre, c'est vraiment un livre incroyable. C'est-à-dire que tous les gens qui l'ont lu en ressortent complètement transformés, bouleversés. J'ai plus d'adjectifs, mais bon, c'est vraiment incroyable de vitalité, de dynamisme. Et ça raconte donc l'histoire d'une jeune femme en Sicile, alors qui est née de façon symbolique le 1er janvier 1900. et qui va traverser comme ça là, une soixantaine d'années pendant le XXe siècle, et qui va être un peu le symbole de la libération de la femme, de vraiment de l'affranchissement. Alors en plus, bon, en Sicile, hein, c'était pas forcément évident d'être une femme en Sicile en 1900, et une héroïne qui s'appelle Modesta, qui va vraiment être un personnage, enfin, moi je trouve que c'est un des plus beaux personnages vraiment de la littérature, et qui va s'affranchir peu à peu. Alors elle est née dans une famille très pauvre, alors elle est voilà violée par son père, une sœur trisomique qu'on enferme dans le placard parce qu'on en a honte, enfin ça part vraiment de très très loin. Elle va passer par le couvent, parce que comme elle a été violée par son père, c'est la honte, donc c'est elle qu'on met au couvent, parce que bon bah voilà, elle l'a un peu cherchée quand même. Et petit à petit, en fait, elle va d'elle-même trouver les moyens de sa liberté. Alors quitte à, voilà, elle accepte de d'épouser alors à son tour un prince trisomique dont personne ne veut, mais elle dit au moins voilà, comme ça je serai princesse, je pourrai faire ce que je veux. Et petit à petit, elle va traverser donc jusqu'en 1960 tout le XXe siècle, et être un peu le symbole donc de toutes les libérations progressives de la femme. Donc ça parle de choses sans aucun tabou, donc de sexualité, où effectivement elle revendique le fait que une femme peut être amoureuse et aussi revendiquer un plaisir sexuel avec son partenaire, ce qui était à l'époque quelque chose de complètement tabou. L'avortement, enfin voilà, donc des thèmes qui sont la politique aussi. Alors il y a plein de gens qui sont évoqués, il y a Gramsci qui sont évoqués dans ce livre, et c'est vraiment incroyable. Alors dans l'écriture, c'est une écriture, et alors le travail de traduction est vraiment formidable, et il y a vraiment des pages entières qui nous emportent complètement, des dialogues incroyables, enfin c'est vraiment c'est presque irracontable en fait, tellement c'est beau.
Et Goliarda Sapienza, elle a une vie de dingue aussi.
Ouais, alors elle a aussi été actrice, elle a joué dans des films par exemple de Visconti. Et effectivement, c'est quelqu'un qui n'a. Alors, ses parents étaient très très militants, donc elle est née dans un milieu effectivement entouré de gens qui se battaient pour les libertés. Et effectivement, elle a jamais rien lâché, notamment comme je disais au début, hein, sur son écriture. Alors, elle a fait des tentatives de suicide, plein de séjours en hôpital psychiatrique, des séjours en prison parce qu'elle avait volé des bijoux dans une soirée mondaine. Et alors, il y a effectivement un parallèle entre son personnage et sa vie, même si c'est pas du tout autobiographique. Hein. Elle a écrit deux œuvres autobiographiques, mais là, effectivement, dans le personnage qu'elle a créé, il y a clairement des inspirations qui viennent de sa vie.
Tu as tout dit?
Non, mais après je. Non, ouais,
je
Odile, elle me dit que j'avais
après,
tout dit.
Hein.
Voilà, j'ai tout dit.
Merci. C'est publié où?
Alors, livre de poche, ça peut faire peur parce que ça fait 600 pages, donc ça fait gros pavé, mais vraiment ça se lit de façon très très fluide.
Ouais. J'aurais peut-être préféré la pause musicale en fait.
Oh, le gros salaud, je vais y aller. C'est bien, on s'entendait tous au début de l'émission, et en fait, je crois que c'est fini, on va plus jamais se parler.
Eh ben, on va en faire une pause musicale pour annoncer le livre suivant, Daniel Darc, Paris, et on verra quel est le livre suivant.
Parce que ça ne viendra pas. Nos parents belle Espagne, mais qu'est-ce qu'il nous reste à nous? Le Liban? Oh, il fait trop chaud là-bas. Marc, ici il fait un peu froid. Mais ça, aucun radiateur au monde n'y peut rien. Il fait froid dans nos têtes. C'est pas Tokyo, Londres, New York ou Amsterdam, non. Non, c'est Paris. Et à Paris, y a rien à faire. Paris de nos rêves. La poubelle est pleine depuis si longtemps qu'il y a plus de place pour nos déchets à nous. Il reste rien à faire, juste marcher dans les rues. Marcher dans les rues et attendre qu'il fasse un peu plus chaud, ou qu'il fasse un peu plus jour, ou qu'il fasse un peu d'amour.
C'est la suite et la fin de Des Poches Sous les Yeux en direct de Quart de Tour sur la Gloriette avec Laurent et Johan. Laurent, pourquoi ce morceau? Pourquoi Daniel Darc?
Eh bien, parce que déjà, il en est question dans donc Vernon Subutex, le roman de Virginie Despentes. Et puis parce que, au-delà de ce dont je vais parler, il y a une forte présence de la ville de Paris, non pas en tant que microcosme de l'histoire qui se déroule, mais en tant que ville dépressive et symptomatique de la société actuelle.
Et donc dans le roman de Virginie Despentes, il y a un chanteur, et quand on le lit, on pense à Darc tout de suite. Hein. Enfin moi en tout cas.
Ouais alors c'est plutôt...
Je vous emmerde.
Ouais, parce qu'en vrai, c'est pas moi qui le dis, c'est Despentes, hein, c'est plutôt une espèce de mix entre Whitney Houston et Kurt Cobain.
Ah ouais, d'accord.
Donc on est un peu loin de de Daniel Darc. Donc Vernon Subutex, eh ben c'est un ancien disquaire qui a mis la clé sous la porte suite à la dématérialisation du disque, et il survit du RSA pendant quelques années, et puis il finit par se retrouver complètement à la rue lorsque donc son pote chanteur là, Alex Blitch, qui était ancien rebelle rocker devenu chanteur populaire à succès, meurt d'une overdose. Or c'est lui qui payait son loyer depuis quelques années. Donc du coup Subutex va essayer de trouver via Facebook, qui a son importance aussi dans le roman, des anciens amis qui seraient susceptibles de l'héberger. Donc il va aller fouiller un peu dans son passé de rebelle, période rock alternatif, ni Dieu ni maître, et toutes ces choses qu'on brandissait comme des slogans. Et ce qu'il faut savoir, c'est que du coup Bleach, un soir où il s'était foncé à la coke un peu plus que d'habitude, il a enregistré ses aveux, une forme de testament. Alors à la fin du tome 1, on ne sait toujours pas ce qu'il y a dedans, mais en tout cas quelque chose que beaucoup de monde veut récupérer. Alors soit pour en faire de l'argent, soit parce que peut-être ils contiennent des aveux qu'il ne faudrait pas voir étalés sur la place publique. Donc, et puis ça, Subutex, il s'en fout complètement, il y pense même pas. Lui, il a rangé les bandes enregistrées quelque part dans un carton, il sait même pas où. Donc il y a une espèce de trac comme ça en parallèle dont lui, qui est pourtant la cible, est même pas au courant. Subutex, lui, passe de squat en squat, hein, et puis son errance comme ça, chez les uns, chez les autres, va faire convoquer, et c'est ça qui est quand même assez exceptionnel dans le bouquin de Despentes, tous les fantômes d'un autre temps, donc le temps du rock, de la rébellion, du ni Dieu ni maître, hein, puisque c'est ce dont il est question aujourd'hui. Et elle nous donne à voir ce que sont devenus tous ces adeptes de toute cette culture alternative des années 80.
Et c'est pas gay.
Et c'est pas gay, enfin c'est drôle quand même quelquefois. C'est pas brillant, on va
ouais,
dire. C'est pas brillant, ouais. Elle fait là, elle va faire elle aussi un peu son festival, genre les 30 ans de l'ère post-rock. Donc là, il y en a qui sont passés de l'extrême gauche à l'extrême droite. Il y en a qui soignent leur frustration un peu ou leurs ambitions frustrées en tabassant leur femme. Et Subutex passe de l'un à l'autre comme ça, du père de famille bien rangé à l'actrice porno déchue. Et à chaque fois, le personnage va s'effacer un peu plus pour finir à la fin du tome 1 auprès d'un SDF qui lui apprend la survie en milieu humain et urbain du côté des buts de Chaumont. Et après... la suite est à découvrir dans le tome 2, puisque effectivement sont prévus 3 tomes à Vernon Subutex. Donc le deuxième vient de sortir là en début de semaine. Et le troisième qui n'est pas encore écrit, a priori vers le mois de janvier.
Donc Virginie Despentes a cédé aux éditeurs qui font du commerce sur ses écrits.
Alors oui, elle le reconnaît elle-même. Hein. Elle se considère elle-même finalement comme, alors pas forcément un rebut pathétique de ces années rebelles, mais elle ne s'exempte pas non plus, elle, de la tournure dont elle a prise. Alors ce qui est génial, c'est qu'il n'y a absolument pas de velléité à vouloir dénoncer quelque chose à partir d'une question où c'est, bah voilà, à 20 ans, on est punk, on n'en a rien à foutre de tout, super. Et puis, bah, à 50, ça ressemble à quoi ta vie? Donc, c'est un peu autour de cette question-là qu'elle nous propose, en tout cas, de nous interroger en nous tendant un peu un miroir de parcours de personnage comme ça où elle, elle a pas son pareil. Enfin, j'aurais pas dit ça il y a quelques années sur elle, mais en tout cas, pour Vernon Subutexte, elle a pas son pareil pour mélanger à la fois la tendresse et l'ironie, une forme de lucidité assez acerbe, mais en même temps profondément humaine. Et puis tout ça dans le cadre d'un vrai faux polar qui est quand même son genre de prédilection.
Et avec une écriture incroyable.
Eh ben, ouais. Contre toute attente. Faut que j'arrête. Non, c'est-à-dire qu'elle a grandi, je crois. Donc, finalement, le truc positif de tout ça, c'est quand même quand on a un peu de recul et qu'on réfléchit sur sa forme de radicalité qu'on peut avoir plus jeune, ça rend les choses un peu plus intéressantes et on retrouve du discours et pas juste du slogan.
Ouais, et c'est vraiment un plaisir à lire. Donc, il faut lire le premier et se précipiter sur le deuxième.
Absolument génial. Je suis persuadé que dans quelques années, ce sera un peu un modèle de... alors, on n'appellera pas ça le nouveau roman, mais en tout cas... c'est une œuvre qui comptera vraiment beaucoup dans quelques années.
Merci Laurent. Donc c'est Vernon Subutexte est paru
au Seuil.
Au Seuil. Pas encore en poche, mais j'imagine qu'ils sortiront les trois en poche dans un beau coffret. Pour Noël peut-être, oui. On finit avec, alors là, on disait dans quelques années, ça sera un modèle. Stephen King, Johan dans des poches sous les yeux, déjà c'est un événement, Johan dans des poches sous les yeux.
Ouais, complètement, ouais.
Et Stephen King, alors là pour le coup, on a tous lu du Stephen King, enfin j'espère.
En tout cas, rares sont les gens qui ne connaissent pas cet auteur américain, Stephen King, donc connu en 76 pour avoir écrit Carrie, entre autres, mis au cinéoche par Brian De Palma, d'une bien belle manière d'ailleurs, avec le premier rôle de Travolta, faut le souligner. Mais bon, là je vais vous parler de son quatrième, Le Fléau, donc son premier gros pavé, puisque là on vous parlait de drogue et de religion depuis tout à l'heure. Bah là, c'est un peu un condensé de tout ça, Stephen King, puisqu'il est devenu cocaïnomane pendant l'écriture de ce bouquin qui a failli le rendre fou, qui a pris 5 ou 6 ans de sa vie. En tout cas, il a failli jamais ne le finir. Donc, Le Fléau, ça parle de quoi? Ça parle d'une pandémie qui frappe les États-Unis. Il y a 95% de la population américaine qui décède suite à cette pandémie. Donc il y a pas d'histoire de zombies ou quoi que ce soit, hein. Les gens sont morts et 5% restants font des rêves et donc il y a des gens qui leur parlent. Donc un côté un mec qui s'appelle Randall Flagg, dit l'homme en noir, et l'autre Mère Abigail, une vieille blues woman de 108 ans. Et chacun choisit un peu son camp. Donc une partie donc des 5% vont à Las Vegas à l'appel de Randall Flagg, et les autres vont à Boulder dans le Maine, puisque Stephen King est du Maine, et d'ailleurs tous ses bouquins parlent du Maine, puisque ça, par exemple, son autre pavé se passe en Derry, et c'est sa ville de cœur, donc le Maine. Donc ils vont à Boulder, donc rejoindre cette fameuse vieille de 108 ans, et en fait, bien sûr, bah vous l'avez compris, c'est la lutte ancestrale entre le bien et le mal. Ouais. Randall Flagg, c'est Satan en personne, et Mère Abigail, c'est un ange immortel. Et donc voilà. Donc c'est The Stand en anglais, Le Fléau. C'est le premier bouquin de Stephen King que j'ai lu de ma vie, qui m'a donné envie de lire ces 30 autres qui ont suivi. Du coup, ce bouquin, donc au-delà du fait que ça a failli le rendre dingue et que il est devenu cocaïnomane, il est resté cocaïnomane pendant longtemps, même pendant l'écriture de Maximum Overdrive, où il saignait du nez en écrivant le bouquin, tellement il sniffait de coke, sa femme n'en pouvait plus.
Ça donne envie d'écrire encore là.
Et il a été mis en film, on va dire, hein,
en série
comme ça d'ailleurs, une adaptation complètement lamentable où il y a un héros en fait dans le fléau qui va dans les gentils, on va dire, Mère Abigail, c'est un Afro-Américain aveugle. Et dans le bouquin, il est noir, et dans la série, il est blanc, et aveugle également. Et donc, les gens se sont offusqués. Stephen King s'est offusqué en disant « Pourquoi tu fais ça? Est-ce que t'es raciste ?» Effectivement, donc cette adaptation ciné du fléau a été critiquée et traitée de raciste par la presse américaine. Voilà. C'est Rob Lowie hein, qui faisait le noir aveugle. Donc Rob Lowie n'est absolument pas noir et il n'est pas, absolument pas aveugle non plus. Mais voilà, Le Fléau, The Stand, quatrième bouquin de Stephen King, trilogie, sorti sur J'ai lu Horreur.
Super, merci, merci Johan, merci, merci à tous d'avoir participé à ce Dépêche sous les yeux. Odile, on peut peut-être juste à la fin là, répéter où est-ce qu'on retrouve Dépêche sous les yeux sur béton.
À 8h moins 5, 1h moins 5 et 6h moins 5 tous les jours de la semaine.
Ah ouais, d'accord, ok, c'est noté alors. Merci, merci Violette, merci à tous. À 20h, c'est Andrea hein, sur Regard de Tour. Je vous le dis parce que j'ai pas fait de pub depuis ce matin, donc j'en fais. Merci.
Mais qui est Andrea ?
Je sais pas. Allez, ciao, à bientôt.
Retrouvez cette chronique sur le site despochessousyeux.fr et sur radiobeton.com.